Vous le savez, parmi, je dirais, les fleurons de l'armée israélienne, il y a bien sûr l'armée de l'air israélienne, une armée légendaire. On dit que ce sont parmi les meilleurs pilotes de chasse du monde. Alors comment cette armée de l'air israélienne a vu le jour? Comment elle a prospéré? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui encore ce soit l'une des meilleures au monde? Eh bien, Bernard El Haddad, passionné, spécialiste en aéronautique, s'en est entretenu hier soir avec Ava Merji. Je vous propose de retrouver leur échange.
Yom HaAtzmaout, 78e anniversaire de l'État d'Israël. Alors, on n'a pas eu de parade aérienne cette année encore. Petit regret, même gros pour certains. Mais on va quand même parler des avions et des pilotes israéliens qui ont montré leur savoir-faire exceptionnel, leur précision, notamment ces derniers mois en Iran, au Liban. On est avec Bernard El Haddad, fan d'aviation qui a travaillé longtemps dans l'aéronautique, qui est aussi membre du club de maquettisme de l'IPMS. Bernard, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On voit aujourd'hui toute cette expertise des avions israéliens, des pilotes israéliens, mais si on remonte en arrière, on est parti de pas grand-chose, parce qu'au début, ces avions, ils n'existaient pas, il fallait les acheter à d'autres pays. Comment ça s'est passé?
Écoutez, on va essayer de faire assez court. Mais l'aventure de la constitution de la force aérienne israélienne, qui a commencé aux environs de 1947, jusque, on dira, à 1953, quand c'est devenu une véritable armée de l'air, c'est un roman d'aventure que nous ne pouvons malheureusement pas passer ici, parce qu'il nous faudrait passer 4 émissions d'une heure, mais on va être assez bref. En 1947, Ben-Gourion, voyant la guerre arriver, demande « Est-ce qu'il me faut une force aérienne ?» Des gens, très peu, 3-4 personnes, très bien avisées, lui répondent « Il te faudra une force aérienne si tu veux défendre l'État d'Israël. » Et il décide de lancer la création d'une force aérienne, alors que il ne peut pas acheter d'avions militaires parce que l'État d'Israël n'existe pas. Et seuls les États achètent des avions militaires. Et ça, cette période est déjà une aventure d'espionnage, de coups tordus, de choses absolument invraisemblables.
Et en mai 48, l'aviation israélienne mène déjà une mission militaire incroyable, une des
arriver en
premières.
Israël.
Voilà, c'est l'opération Adalom, où là on utilise des avions tchèques, des avions allemands. Parlez-nous un peu de cette opération.
Alors, cette opération du fait que tout simplement, le premier pays qui a accepté de vendre des avions, des vrais avions de guerre à l'État d'Israël qui n'existait pas encore, c'est la Tchécoslovaquie qui, poussée par des raisons politiques par l'URSS, a accepté de vendre à peu près 20-24 avions, je crois, des avions de chasse déjà périmés à l'époque, à l'État d'Israël. Ces avions sont arrivés pratiquement au moment de l'indépendance, les 4 premiers, il a fallu les remonter, les réarmer, les régler, les faire prendre en main par des pilotes. Et à ce moment-là, arrive le fameux épisode dont tu parlais, l'épisode de Ad Alom, comme la gare de chemin de fer que nous connaissons bien à Ashdod, c'est le nom de notre gare. Et c'est leur première mission qui est restée dans le livre d'histoire. Quand ils ont été remontés, les troupes égyptiennes volant le long de la côte méditerranéenne étaient déjà passées dans la région de Gaza, dans la région de ce qui est aujourd'hui Ashkelon, et arrivées sur ce qui allait être Ashdod. Et là, le commandement militaire de l'infanterie n'avait aucun moyen de les arrêter. Et ils ont demandé si on pouvait les aider avec les avions. Et Ben-Gourion a fait annuler les autres missions prévues pour ces avions, et leur a donné l'ordre d'aller intervenir à cet endroit-là, ce qui est aujourd'hui à peu près le carrefour de Ad Alom, le long de l'autoroute 4, à l'endroit où il y a la gare d'Ashdod. Et là, les avions qui avaient décollé, et c'était la tombée de la nuit, ont bombardé et mitraillé la colonne qui arrivait, la colonne égyptienne, qui s'y attendait pas du tout. Ils n'avaient aucune notion du fait que les Israéliens avaient maintenant des avions de guerre et qu'ils étaient capables de les attaquer. Voilà. Ils ont été stoppés sur place et... au bout de 24 heures, je crois, le commandant de la colonne a pris la décision de revenir en arrière vers l'Égypte parce qu'il se demandait si une deuxième attaque allait se produire, etc. Et cet endroit s'appelle Al-Alom, ce qui signifie en hébreu jusque-là et pas plus loin, parce que jusque-là et pas plus loin, les troupes égyptiennes n'ont pas dépassé cet endroit.
C'était
Voilà
facile
la
de se
première mission légendaire de
familiariser.
l'armée de l'air.
C'était
Pardon?
pas facile, on imagine, de se familiariser avec ces différents avions, quand on part de
Mais
rien et.
c'est-à-dire, le seul avantage qu'il y avait, c'est que les pilotes qui ont piloté dans ces premières missions étaient des gens déjà expérimentés qui avaient volé pendant la Deuxième Guerre mondiale et sur des avions de chasse. Donc, ils savaient faire ce genre de travail. Ils l'ont fait. Malheureusement, il y a eu un pilote accidenté et deux avions perdus sur les quatre qu'avait Israël à cette heure-là, ce jour-là. Mais ça a stoppé la colonne égyptienne sur place. Voilà. C'est la première mission légendaire de l'aviation israélienne intervenant aux côtés de l'armée de ce qui allait être l'armée d'Israël. Voilà.
Et encore toute une nostalgie autour de ces premiers avions qu'avait l'armée israélienne. Vous faites partie d'un club de maquettisme où il y a des passionnés qui reconstituent à
Ah
l'échelle
oui,
les fameux.
les gens qui fabriquent des petits avions, quoi,
Ah,
dans ce
super.
genre-là. C'est pas le bon modèle, hein, c'est pas le bon modèle. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est que sur quel type d'avion est-ce que les pilotes sont venus intervenir pour arrêter les Égyptiens? Alors, il y a une deuxième chose extraordinaire sur la première, c'est que ces avions sont des avions Avia 99, et quand on se renseigne et qu'on voit de très près de quoi il s'agit, l'Avia 99 n'est autre qu'un avion allemand très très connu des amateurs d'aviation, qui est le Messerschmitt 109. Le Messerschmitt 109 était rien moins que la bonne à tout faire et l'ossature de base de l'armée de l'air allemande de 1936 à 1945. Et il y en a eu des milliers et des milliers de fabriqués. Ces avions, à un moment donné, la fabrication avait été déléguée, si j'ose dire, aux Tchèques, parce que les Allemands essayaient d'éviter qu'on bombarde leurs usines. Les Tchèques fabriquaient ces avions. Une fois qu'ils avaient fabriqué ces avions, ils se sont retrouvés à court de moteurs et ils ont mis des moteurs moins bons sur ces avions de chasse. Ça a donné le Avia 99, qui était un avion qui n'était vraiment pas une vedette, une grande star de l'aviation de chasse. Mais la Tchécoslovaquie, sur ordre de l'URSS, a consenti à vouloir en vendre, je crois, 24 à la future armée de l'air israélienne. Et ils sont arrivés, ces avions qui ont été conçus par les nazis, fabriqués par la Tchécoslovaquie pour l'aviation de l'Allemagne. Ces avions-là, bon, ont été les premiers à intervenir pour défendre le pays des Juifs. C'est l'histoire.
Quand
Vous
vous
en
voyez
avez un très
la.
beau à l'entrée du musée à Beersheba. Pour les ceux qui veulent faire le déplacement, allez voir ce musée et ça vous accueillera pratiquement à la porte. Vous avez ce Avia 99 qui est là, qui a été remis parfaitement en état par des gens très compétents.
Quand on voit les avions, les pilotes israéliens le jour de Yom HaAtzmaut, les années où on a la chance de voir cette parade, ça vous inspire quoi?
Eh
Il y a
oui.
une fierté.
Eh bien, l'armée de l'air, elle s'est constituée donc à partir de 47, quand Ben Gurion a donné l'ordre d'essayer d'acheter des avions. Et elle a fait donc sa première opération dans les tout premiers jours de l'indépendance. Et il a fallu qu'elle se batte comme ça, avec pas grand-chose, beaucoup d'improvisation, beaucoup de savoir-faire. Et ça a donné une espèce d'état d'esprit qui est resté un petit peu le même, même jusqu'à nos jours, où on a une aviation beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus efficace, etc. Mais on est resté toujours avec le culte des pionniers qui ont fait à partir de rien, une force aérienne qui est devenue très rapidement, en quelques années, un adversaire très, très coriace. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire une chose qui fonctionne. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait trouver une solution pour barrer le chemin aux aviations arabes qui, elles, existaient déjà dans les pays avoisinants depuis plusieurs années et qui étaient grandement aidées par les Anglais qui entraînaient les gens et qui souvent fournissaient les avions.
Voilà, on a vu ce qu'ont fait les pilotes israéliens avec les pilotes américains en Iran et ailleurs, des exploits. Bon, on regrette encore qu'il n'y ait pas eu de parade cette année, mais on espère les voir l'année prochaine.
Si j'osais, je disais, j'oserais dire, si je pense être bien entendu, que l'exploit est qu'il n'y a pas d'exploit. c'est des années de mise au point, de travail quotidien, de discipline, d'une discipline extraordinaire dans ce qui concerne l'exécution des missions aériennes. Et ceci, c'est valable pour les pilotes, pour les gens qui préparent les missions, pour les transmissions, pour les mécaniciens et pour les spécialistes de tout genre. Il n'y a pas de place dans cette armée de l'air pour les fantaisistes, dirons-nous. Il n'y a pas de place pour eux. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le résultat, c'est ce que nous voyons, nous, vaguement à la télévision. Voilà. Je résume, les dizaines de milliers de sorties d'avions pendant toute la guerre que nous subissons encore aujourd'hui, pas un pilote perdu, pas un avion perdu, pas un avion endommagé, pas une mission annulée. Zéro faute.
Mais voilà, vous nous avez donné tous les secrets, les détails de ces avions. Bernard El Haddad, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. L'armée de l'air est notre second foyer.
Voilà, vous l'avez bien dit. Donc,
À tous.
profitez bien.
Mais merci, merci, et de même.